Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour. Il y a une semaine, nous votions, avec en tout cas pour la grande famille des écologistes, tout parti confondu, la volonté de faire barrage au Front National, peu compatible avec un programme environnemental. Avec le nouveau Front Populaire, Jean-Louis Roumégas, qui est EELV, donc les Verts, a été élu dans la première circonscription de Montpellier. Depuis son élection, il prend ses marques à Paris et a accepté de faire un point avec nous pour Divergence FM. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Alors, merci de nous accorder un peu de temps cette semaine de rentrée parlementaire, mais tout cela vous est familier puisque vous avez déjà été député de l'Hérault de 2012 à 2017.
C'est bien cela, oui.
Et vous aviez, vous avez à quel souvenir de cette période ?
Une période très intéressante où je découvrais donc l'outil Assemblée nationale et où j'avais constaté les moyens de travailler exceptionnels dont on bénéficiait à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'accès à toutes les expertises imaginables dans tous les domaines. Hein, c'est très facile d'organiser des auditions, d'avoir les meilleurs spécialistes, universitaires, chercheurs, grands témoins, etc. Donc une grande facilité à auditionner et à travailler sur le fond avec aussi une administration de haut vol à l'Assemblée nationale.
Donc on peut dire qu'un député, finalement, il a accès à toute l'information dont qu'il réclame.
Oui, tout à fait.
Bien. Avant d'évoquer donc les enjeux à venir, hein, racontez-nous un petit peu votre campagne, alors votre élection, et une petite analyse peut-être du terrain. Puisqu'on retrouve dans votre circonscription un exemple qui est partagé par d'autres régions françaises, hein, la différence de vote et donc de préoccupation entre les villages et la grande ville. Donc peut-être nous dire, puisqu'on est sur une radio montpelliéraine, nous redécrire peut-être en même temps la première circonscription.
Alors la première circonscription, elle a une moitié de ses électeurs qui sont sur le territoire de Montpellier. C'est tout le sud et l'ouest de Montpellier. En gros, c'est la moitié sud. Le Lez fait frontière, hein, donc jusqu'au Lez et la mairie. Tout le côté ouest, ensuite, à peu près jusqu'à la hauteur de l'avenue de la Liberté. Donc, vous voyez, c'est un gros tiers sud-ouest de Montpellier, avec des quartiers, Masprunet, Bagatelle, Paul Valéry... Ovali, Mazrevon, près d'Arennes et jusqu'à La Rose.
Et donc ça, c'est pour Montpellier.
Ça, c'est la partie montpelliéraine. Et sur l'extérieur, on a donc les communes de Palavas, Pérols, Latte, Villeneuve-les-Maguelones et à l'ouest, donc Saint-Jean-de-Védas et La Vérune.
C'est énorme. Ça représente combien d'électeurs ?
À peu près 90 000 électeurs.
Bon.
Et effectivement... avec deux réalités électorales très très différentes, comme on peut le voir sur la carte de la région. D'ailleurs, Montpellier est l'îlot de gauche dans un océan de Rassemblement national. Donc il y a quatre circonscriptions, toutes les circonscriptions qui ont une partie montpelliéraine ont réussi à rééquilibrer... une élection qui était très favorable au RN dans le reste du département.
Alors, effectivement, quand on regarde les cartes au lendemain du deuxième tour, on s'aperçoit que c'est juste cette circonscription qui est en rose hein, dans un océan de gris-noir RN.
C'est ça. C'est ça. Et là, sur ma circonscription, c'était très visible, puisque en dehors de Saint-Jean-de-Védas et la Vérune, où je suis arrivé en tête, mais légèrement, sur toutes les autres communes, Villeneuve, Latte, Pérols, Palavas, c'est le RN qui finit en tête. Et alors, c'était très visible parce que, comme les bureaux fermaient plus tôt à l'extérieur de Montpellier, à 18h...
C'était le RN en tête.
C'était le RN en tête, avec 55-45%. Et bon, on attendait bien sûr les bureaux de Montpellier. Et au fur et à mesure que les bureaux de Montpellier rentraient, on a inversé la tendance, on a remonté 10 points, avec un résultat final de 55%, 45% en ma faveur.
Et alors quelles étaient la préoccupation de ces gens qui ont voté RN ?
Alors, c'est souvent, bon, c'est assez classique, hein, c'est une colère, bon, ils mettent en avant les questions de sécurité, d'immigration, on a envie de changer, il faut voir. Bon,
est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez agir là-dessus ?
Alors, moi, je crois qu'on peut agir, c'est un travail de long terme. En fait, quand on pousse l'analyse un peu plus loin, et moi je renvoie aux analyses de Hervé Bras, donc le démographe, qui a très bien montré que plus on s'éloigne des métropoles, du cœur des métropoles et des centres-villes, et plus on s'éloigne, plus le vote Rassemblement National est élevé. Je crois qu'en fait, on est devant un phénomène de sentiment de relégation, d'isolement de populations qui ont moins de services, ou moins de services publics, mais de services en général, ça peut être aussi des services culturels, etc. Et donc un sentiment d'être moins dans l'inclusion, peut-être, voilà, qui développe ce sentiment méfiant, un peu xénophobe, un peu en colère, qu'on ne trouve pas du tout dans les centres urbains.
Et ça risque de perdurer parce que il est pas, enfin, les services publics, on ne va pas pouvoir les rétablir partout.
Non, mais c'est peut-être, il faut peut-être travailler à une inclusion, une citoyenneté qui permet de créer un sentiment de convivialité et de communauté qui manque souvent dans ces... Parce que là, on n'est pas dans des zones rurales non plus, hein. On est dans des zones périurbaines, mais qui souvent sont un peu des dortoirs, on va dire, et dans lesquels il manque ce qu'on a à Montpellier, c'est-à-dire une vie commune dans l'espace public qui est très développée. On dit souvent que ces territoires sont un peu plus individualistes. C'est vrai que les gens
rentrent chez eux, quoi, et puis voilà.
Ils rentrent chez eux, ils sont isolés, et il y a peu de vie citoyenne, etc. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. Pour les zones rurales, je pense que c'est autre chose. Je pense que dans les zones rurales, le sentiment qui prédomine et qui sûrement pousse les gens vers le vote RN, c'est le sentiment d'être dans une culture dominante qui est urbaine, et qui ne correspond pas à leurs valeurs. On l'avait vu par exemple en Camargue, quand tous les gens de Camargue étaient venus manifester à Montpellier, ils avaient l'impression que la culture urbaine qui domine, les médias, etc., c'est une culture qui ne partage pas leurs valeurs par rapport à l'animal, à la chasse, à la façon de vivre, etc. Donc,
en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on aurait une vision purement urbaine dans les grands centres, hein, on aurait du périurbain, et qu'il y aurait un manque de services, mais pas forcément les mêmes raisons que les villages.
Non. Après, on a un sentiment du rural, d'être décalé par rapport à la culture dominante. Je crois que c'est ça le problème, et il faut travailler là-dessus.
Non, on est vraiment dans un problème de civilisation, quoi. Oui. C'est pour ça que ça va être si difficile. C'est pas seulement des moyens économiques, c'est pas seulement, c'est vraiment une civilisation en mouvement et des choses qui changent.
Oui, et puis après, il y a quand même le contenu politique aussi. Il y a les gens ont l'impression que et la gauche et la droite n'a pas su répondre à leurs attentes, qui ne sont pas toujours d'ailleurs bien identifiées. Mais nous, ce que nous avons identifié avec le Front populaire, c'est que la réponse aussi à la montée de l'extrême droite, c'est développer les services publics d'éducation et de santé, les services publics de sécurité, mais de sécurité dans la proximité, des polices de proximité. Ça, ce sont des enjeux très, très importants pour tous ces gens qui sont en colère. Et puis, rétablir aussi une vie démocratique où les gens n'ont pas l'impression que les décisions sont prises déconnectées de leur réalité, que ce soit le pouvoir d'achat, les retraites, enfin beaucoup de choses. Les gens ont l'impression d'être gouvernés par une élite qui est déconnectée de la réalité.
Alors, on va revenir un petit peu sur tout ça maintenant, puisque vous avez été élu sur un programme commun qui se donne des actions à accomplir dans les 15 premiers jours. On s'appelle la rupture, avant l'été des bifurcations. Puis le programme de ces 15 premiers jours, bon, il est déjà énorme. Moratoire sur les grands projets d'infrastructure, sur les méga-bassines, droit au logement, réparation des services publics. Déjà autour d'ailleurs de ce programme apparaissent des divisions et pourtant LFI dit le programme, tout le programme, quand d'autres commencent déjà à défendre le fait qu'il y a eu un barrage républicain au FN, mais que le programme avait été trop vite ficelé et qu'on a le droit de revenir dessus. Alors vous en pensez quoi, vous ?
Un programme ne doit jamais être figé dans le marbre. Bon, ensuite, il y a toujours des réalités, des ajustements à faire, ça c'est tout à fait normal. Mais là, on est d'abord dans une situation, avant même de parler de ça, on est déjà dans une situation de majorité très relative. Moi, je considère que la gauche a une majorité, ça c'est le président de la République doit l'entériner et en tirer les conséquences en donnant un premier ministre issu du nouveau Front populaire, mais en même temps,
qui n'est pas majoritaire.
Voilà, enfin, qui n'est pas majoritaire. Donc, qui pour les textes principaux et même pour le budget, devra trouver des majorités. Donc, c'est là bien évidemment, tout le programme ne pourra pas être réalisé dans ce contexte-là. Même quand on a une majorité absolue, on voit que souvent, il y a des difficultés qui surgissent, mais dans le cas d'une majorité relative, c'est encore plus vrai.
Alors, en plus, on a entendu chez vous, chez ELV, Marine Tondelier, Yannick Jadot, qui ont déclaré que l'éclatement de l'Assemblée n'était pas forcément négatif, qu'il allait y avoir une obligation à travailler différemment, que le rôle des groupes pourrait être renforcé par l'obligation à faire des alliances par projet, donc vous venez d'en parler, et vous sentez-vous prêt, adulte, comme dit Glucksmann, à ce type de fonctionnement dans une assemblée que l'on dit ingouvernable pour l'instant ?
Alors d'abord, la première différence, c'est que d'habitude, on a une assemblée qui a une majorité absolue ou relative, mais qui est issue de la majorité présidentielle. Ça n'est pas du tout le cas. Ça n'est plus du tout le cas. Là, c'est différent. Il faut, au sein de l'Assemblée, trouver une majorité qui ne sera pas la majorité présidentielle, puisque celle-là...
Qui va donc être une majorité plurielle.
Mais surtout, qui sera une majorité parlementaire. Et ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire, le rapport entre l'exécutif et le Parlement est inversé. Ce qui est, en fait, un retour à l'esprit parlementaire, à un régime plus parlementaire, alors qu'en France...
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple pour que ce soit clair pour les auditeurs ?
En France, si vous voulez, depuis qu'il y a eu le quinquennat instauré et donc une présidentielle suivie d'élections législatives, on voit qu'on avait des majorités qui étaient des majorités de soutien au président et qui entérinaient la volonté du président. Les grands arbitrages...
Une majorité présidentielle, quoi, depuis De Gaulle.
Voilà, c'était un régime qui, de fait, devenait surtout présidentiel, avec des majorités un peu croupions, même s'il y a un travail après dans le contenu des textes. Bon, là, c'est complètement différent. On se rapproche plus d'une situation à l'allemande ou à l'espagnole, où l'exécutif, indépendamment du président, qui, lui, se retrouve en cohabitation, donc un exécutif, un premier ministre et un gouvernement issus de la majorité parlementaire. Donc ça, c'est le premier point qui est que nous, on appelle de nos voeux de façon permanente. On est pour une évolution du régime et pour redonner au Parlement ce rôle qui est celui qui, quoi qu'on en dise, est plus adulte et plus représentatif de la réalité d'un pays. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Allemagne avec un régime comme ça. Angela Merkel a incarné une stabilité qu'aucun président français n'a pu revendiquer.
Donc pour vous, on peut atteindre une stabilité, comme le disent Marine et Yannick Jadot. Aussi,
voilà, mais ça implique aussi qu'au sein du Parlement, puisque en plus il y a une élection proportionnelle en Allemagne, qu'au sein du Parlement, on trouve des compromis. C'est pour ça que vous avez parfois un mois, deux mois de négociations pour négocier un gouvernement et un programme de gouvernement dans lequel la coalition qui se forme négocie donc les points importants qui satisfont les uns ou les autres.
Alors, il n'y a pas forcément...
Ça serait le vrai retour à un régime parlementaire avec peut-être en plus, il faudrait la proportionnelle. On est dans un système un peu bâtard en ce moment.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. En fait, c'est un petit peu ce que disait Copé le soir du deuxième tour, quand il comparait l'Allemagne, l'Espagne, enfin quand Glucksmann parlait de la, justement, comme vous, reprenez en exemple l'Allemagne ou l'Espagne, Copé disait oui, mais les constitutions de ces pays ou la constitution européenne est différente de la constitution française qui est, elle, justement, majoritaire, etc. Et donc, est à un problème constitutionnel presque, et pas seulement parlementaire.
Oui, mais on a déjà eu des cohabitations avec des majorités parlementaires qui arrivaient à mener leur politique. Je pense à la période 97 avec Lionel Jospin et la gauche plurielle, qui a mené beaucoup de réformes, où on peut penser aussi à la période où Jacques Chirac était Premier ministre et François Mitterrand président de la République. Et là aussi, on a eu un gouvernement qui a pu légiférer sur beaucoup de choses. Il y a quelques domaines réservés du président de la République. Il y a encore des pouvoirs, évidemment, du président de la République. Mais la différence avec la période actuelle, c'est que à ces moments-là, il y avait des majorités absolues pour porter la cohabitation. Des majorités absolues à l'Assemblée, qui donc pouvaient imposer au président une politique. Là, la difficulté, c'est plutôt au sein du Parlement de trouver une stabilité qui permette donc au Parlement d'imposer un gouvernement.
Alors, venez de vivre là une semaine à Paris et vous avez rencontré déjà des gens, etc. Bon, je n'ai pas du tout envie qu'on joue les Madame Soleil et qu'on accélère les processus qui sont des processus longs de discussion, d'information, où chacun un peu se renifle, on va dire. Bon, enfin bref. Mais est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une possibilité d'y arriver ? C'est ça qui est important.
Alors, tout dépendra du comportement des différents groupes politiques. Au sein du nouveau Front populaire, les discussions avancent pour faire une proposition de Premier ministre et de gouvernement qui soit issu de cette majorité, même si c'est une majorité relative. Alors, bien évidemment, moi je considère que le président de la République devra respecter cette proposition. Mais après, il y a eu un autre enjeu pour le nouveau Front populaire, c'est de gérer l'élargissement ou la bienveillance au moins de la majorité de l'Assemblée nationale pour éviter que ce gouvernement ne tombe sous le coup d'une motion de censure de façon trop, trop rapide. Donc si vous voulez, on est sur un chemin étroit entre la cohésion et le respect du programme du nouveau Front populaire et en même temps la nécessité de négocier pour que ce gouvernement puisse travailler de façon durable au sein du Parlement. Voilà, ce chemin étroit qu'il faut trouver. Mais je crois que la première étape, c'est déjà que le nouveau Front populaire se mette d'accord. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est en bonne voie. Il y a des discussions qui avancent.
Bon, alors, pendant ce temps-là, on aurait donc un gouvernement d'experts. On voit déjà dans la presse, notamment dans Actu Environnement, des listes d'experts qui pourraient gérer des dossiers urgents. Alors, vous avez assisté donc à nombre de réunions. Avez-vous une idée de ce que vont être justement les priorités environnementales ? Parce que pour l'instant, dans la presse, on entend surtout effectivement parler de toutes ces alliances qui sont possibles. Alors déjà, il va falloir que culturellement, les Français apprennent que une alliance, ça n'est pas une magouille. Et ça va être quelque chose de compliqué. Bon, ensuite, on a quand même des grandes échéances environnementales. On a bientôt la COP climat, on a la biodiversité, on a bientôt à répondre sur les océans. Et on a un gros retard français sur ces stratégies. Donc, il est difficile de trouver dans les discours de Marine Tondelier des réponses à ces questions. Et on a l'impression qu'on reste pour l'instant quand même dans l'idéologie politicienne. Alors, vous avez concrètement, je suppose, parlé de plus de dossiers. On en est où là-dessus ? Parce qu'on n'en entend pas parler à l'extérieur.
Non, mais aujourd'hui, on est sur une... Comment dire sur, évidemment, on a une impression de politique politicienne parce que c'est aujourd'hui le moment là, de ce mois de juillet, c'est comment les groupes se constituent à l'Assemblée nationale, le périmètre des groupes, ça va avoir une importance évidemment pour la suite. C'est ensuite le gouvernement, les tractations entre partis politiques. Donc si vous voulez, les questions de dossiers de fond viendront dans un second temps, en fonction de l'équilibre qui est trouvé.
On verra. Et pourtant, c'est maintenant qu'on nous attend. Par exemple, au niveau européen, en ce qui concerne les stratégies pour le climat, c'est aujourd'hui qu'il faut les rendre. Oui, il fallait les rendre, d'ailleurs.
Là, on est dans le programme de Marine Tondelier, tout le monde le connaît, c'est celui des écologistes, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Mais simplement, là, on est dans un moment qui est dû à nos institutions, qui ne va pas durer éternellement, encore quelques jours ou quelques semaines. Et ensuite, bien entendu, ces priorités, on les connaît. Donc,
il va y avoir, pendant un petit moment, un système à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on continue, on va reprendre, on va réouvrir des commissions, on va commencer à rattraper peut-être les retards acquis par ces semaines. Et en même temps, va se discuter l'avenir.
Tout à fait. Mais,
est-ce qu'on va justement rattraper ce retard ?
Oui, moi, je n'ai pas de doute par rapport à ça. Mais le choix du Premier ministre et de la composition du gouvernement aussi apportera des réponses sur les priorités réelles et qui seront portées. Donc voilà, on est obligé de passer par cette phase, c'est tout à fait normal. Après, nous, en tant que groupe écologiste, vous savez bien nos priorités. Mais dans le programme, par exemple, il y a des choses très très claires sur des moratoires sur les projets autoroutiers, par exemple, que ce soit la 69. Là, c'est très clair, c'est un engagement de tout le nouveau Front populaire sur cette question. Vous avez évidemment l'idée de remettre en chantier une nouvelle loi climat qui permet d'atteindre les objectifs pour 2030 et 2050. Donc on a la rénovation thermique des bâtiments qui est un gros enjeu aussi à la fois pour le pouvoir d'achat et pour le climat et qui a avancé trop lentement ces dernières années, la rénovation thermique des isolations et la rénovation des bâtiments donc pour l'ensemble de l'habitat, social comme privé, qui créera aussi beaucoup d'emplois et qui représente un investissement d'avenir pour l'écologie et pour le pouvoir d'achat. Il faut en être conscient. Donc voilà, il y a quelques sujets comme ça sur lesquels on s'est mis d'accord et qui seront les priorités du monde.
Et comment vous allez régler les premiers désaccords ? Par exemple, sur l'Occitanie, on a la 69.
Le programme est très, très, très clair. C'est l'abandon de ce projet.
Et vous croyez que Carole Delga va être d'accord ?
Elle fait partie du nouveau Front populaire. Et de toute façon, le gouvernement décidera là-dessus.
Merci. Bon, alors, parmi donc les grands dossiers, les projets de loi, les commissions qui vont revenir ou qui vont venir sur la table, il y a une urgence. Alors, vous avez choisi, les commissions ont déjà été mises en place au niveau de LV.
Alors, non, on n'a pas encore mis en place les commissions. Ce sera la semaine prochaine que l'Assemblée va voter pour la présidence, la mise en place des commissions. Et moi, j'ai candidaté pour représenter le groupe écologiste donc à la commission des affaires étrangères.
Et alors, ce choix, vous l'avez fait pourquoi ?
Alors, c'est un choix qui va me permettre de travailler sur toujours les mêmes questions d'écologie, de santé, de climat, mais dans un cadre avec un regard évidemment global. On oublie souvent, ce qui m'a marqué évidemment, c'est l'actualité ces dernières années avec la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, mais aussi tous les grandes rencontres internationales sur le climat, sur la biodiversité, sur les océans, qui sont des sujets que je suis. Et je pense qu'il faut que, en France, on s'investisse davantage sur les questions internationales. On a tendance à oublier qu'on fait partie d'un monde vaste. Et on discute trop de nos petites querelles franco-françaises sans voir que tout est déterminé par des grands enjeux internationaux. Voilà, donc c'est sur le plan intellectuel et sur le plan politique, j'ai envie de m'investir dans ce regard géopolitique pour contribuer à une géopolitique du climat, de la biodiversité, de la paix aussi et des droits de l'homme.
Alors, vous êtes en même temps député de Montpellier, donc bravo pour cette approche globale des choses qui va dans le sens d'une avancée du systémisme, d'une alliance des chercheurs, d'une manière de voir que nous appartenons finalement tous à la même planète, hein, donc qui est purement fondateur de l'écologie, mais Montpellier même, comment concevez-vous votre relation d'information des citoyens ? Est-ce que cette semaine politique vous donne de l'espoir ou au contraire, vous avez l'impression qu'un avenir très tendu s'offre à nous ?
Non, moi je pense qu'il y a de l'espoir, il y a du travail surtout. Donc, en ce qui me concerne, je compte mener ce travail citoyen d'échange avec la population de façon permanente dans la première circonscription et à Montpellier. Organiser souvent des débats, ramener les débats nationaux, essayer d'entendre aussi la perception, les préoccupations des habitants de la circonscription dans toute sa diversité, hein. Je compte développer une présence forte à Montpellier. Enfin, en gros, j'aurai deux mi-temps, un mi-temps à Paris, dans les institutions, et un autre mi-temps sur le terrain pour rencontrer, discuter, organiser des débats, mais ramener aussi les grands débats. C'est dans les deux sens. On a besoin d'écouter les citoyens, mais les citoyens doivent aussi être informés des grands débats globaux et nationaux.
Bon, écoutez, Jean-Louis Oméga, je pense qu'on aura l'occasion de se reparler justement de ces grands débats. On sait que le premier va être celui qui nous attend sur la biodiversité, puisque c'est en octobre, puis ce sera celui sur le climat en novembre. Et bien sûr, on préparera ensemble sur Nous n'avons qu'une terre, la rencontre sur l'océan qui aura lieu en 2025. Merci, en tout cas pour toutes ces informations et on se retrouvera bien sûr avec beaucoup de plaisir à la rentrée une fois que vous aurez mis en place tout cela. Au revoir.
Merci à vous, je serai présent sur votre antenne, bien sûr.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.